et un bâtiment, et un bâtiment qui ne donne pas l'impression d'un monastère, un bâtiment qui fait plus penser à un grand hôtel, une grande résidence, et qui est situé dans un cadre absolument magnifique. Vous voyez la verdure, le lac au loin et la retombée de la dent du chat. Et quand on avance un petit peu, on est frappé par la splendeur du site, le calme, et on est frappé par une chapelle qui se trouve en contrebas et qui correspond plus à une chapelle grecque. Elle est constituée avec une croix grecque, plus qu'une chapelle savoyarde classique. Elle a été privée de ses vitraux, on verra pourquoi. Donc vous avez des fenêtres, mais sans vitraux. Elle comporte une coupole, et est tout à fait curieuse. Et ce monastère, il nous surprend. Et visiblement, ce monastère, on a l'impression qu'il est dépassé un petit peu par l'histoire. Et quand on regarde le passé de cet endroit, on s'aperçoit qu'il y a trois personnes qui ont vraiment marqué ce site. D'abord le docteur Jean Bonnard, qui a vécu de 1851 à 1923, et qui a eu un rêve à propos de cet endroit, un rêve climatique, ou comme on disait à l'époque, climatérique. Ensuite, une veuve très riche, Madame Blanche Galis, qui a vécu entre 1868 et 1932, et un religieux, le père Fernand Portal, qui a vécu de 1855 et 1926, qui ont organisé à cet endroit un orphelinat, c'est original, et quand ils sont morts, quand ils ont disparu, ils ont été relayés par les sœurs de Saint-Joseph. Et ça constituera la deuxième partie de mon exposé. Et enfin, depuis 1971, eh bien, on a le monastère de Bethléem, on verra où il correspond. Donc un rêve climatique qui correspondra à la période 1893-1914, un orphelinat 1916-1970, et enfin un monastère très original depuis 1961. Première partie, donc, c'est le rêve climatérique du docteur Bonnard. Le docteur Bonnard, c'est un personnage très original, un personnage qui me fascine beaucoup. Vous le voyez ici, sur une photographie qui n'est pas courante, c'est le docteur Bonnard, à peu près à l'âge de 15 ans, au moment de sa scolarité à l'école des frères de Rumilly. Et donc, c'est cet homme, il va devenir médecin après des études à Lyon, il devient médecin à 26 ans. Et c'est un médecin, on va dire, novateur. Contrairement à beaucoup de ses confrères qui auraient pu se contenter de gérer ce qu'on appellerait une économie cueillette, c'est-à-dire à récolter les fruits d'un thermalisme aixois qui était en plein essor, lui, il cherche des pistes nouvelles, il écrit des livres, il a l'esprit curieux. C'est évidemment un adepte inconditionnel de la cure thermale classique, mais également il fait de la publicité pour ce qu'il appelle la cure interne, c'est-à-dire la consommation, la boisson d'eau minérale, et il va se faire le porte-parole d'une source dont on va reparler, qui s'appelle la source des deux rêves, qui jaillit à Puligny-Château. Vous avez la photographie d'une brochure qui date de 1910 et qui reprend les caractéristiques de ces eaux. Mais ce qui nous intéresse particulièrement dans le docteur Bonnard, c'est qu'il va s'intéresser à la cure climatérique, comme il disait. Nous, aujourd'hui, on parlerait d'héliothérapie, c'est-à-dire le système qui consiste à soigner par l'ensoleillement et le grand air toute une série de fatigues défaillantes. Et lui, il a découvert ça en suivant les cours d'un professeur à la faculté de médecine de Paris, le professeur Jacquot, dans les années 1880. Et c'est le docteur Bonnard qui parle. Le professeur, alimente sa réflexion, relevé réalisé du 25 décembre 1880 au 4 janvier 1881 en Suisse orientale dans le massif des Grisons, plus spécialement à Davos, à 1580 mètres d'altitude, qu'il compare aux indications climatiques de Paris. Et Bonnard continue toujours, nous apprîmes que, pendant que Paris grelottait dans une boue glaciale, les personnes les plus délicates résidant à Davos pouvaient 6 heures durant prendre leurs ébats sur des chandelles durcies, sous les rayons d'un soleil bienfaisant, dont on atténuait les ardeurs au moyen de vertus ou d'ombrelles. Le calme de l'atmosphère et l'absence d'humidité permettaient aux malades d'y faire la cure à l'air libre, sous des galeries jusqu'à 10 heures du soir, même minuit. Évidemment, ça ne nous surprend pas, mais à l'époque, c'est assez curieux. Sur les bancs de l'amphithéâtre, ça ricane. Certains pensent même que le professeur Jacquot délire. Certains disent que, comme il est suisse, eh bien, il vante de façon exagérée son Seigneur qui m'a d'attitude bénéfique. Mais le docteur Renard a beau parler, il a beau écrire des articles dans l'avenir d'Exléma, on le croit très peu, et il enrage un petit peu de voir que ses réflexions ne sont pas écoutées, et il est agacé de voir que la Suisse, et c'est lui qui parle, s'adjuge le monopole de la montagne. Alors il va essayer de convaincre, on va en frapper aux portes, et cet homme infatigable, on va l'appeler de façon assez admirative le père du revers, parce qu'il va chercher à convaincre. Alors il ne va pas réussir à convaincre d'aménager le revers, mais il va convaincre d'aménager Petit Château. Et d'après lui, le revers fait découvrir, son ascension fait découvrir trois étapes. C'est lui qui parle. Mouxy, à 410 mètres, on pourrait se développer des cures d'air rurales. Évidemment, au début du XXIe siècle, on sourit. Hein. Puni, 620 mètres, idéalement situé pour recevoir l'air des sommets et échapper au brume, et donc devenir une station climatique de haute altitude au climat tonique et modérément existant, très favorable aux neurasthéniques anémiques, convalescents d'affections graves, aux affections bénignes et aux respiratoires. Le revers, enfin, station d'altitude. Et cet homme, à force de prêcher, à force de frapper au port, à force d'écrire dans les journaux, il va mettre sur pied, il va faire installer un projet particulièrement ambitieux au corps. Alors la première nécessité pour ce projet ambitieux, c'est de réaliser un accès facile à l'endroit. Tout le monde n'est évidemment pas un sportif comme lui. Alors, le moyen retenu est l'édification d'un chemin de fer à crémaillère de 9,5 km reliant Exclément-Revard via les gares de Mouxy, Puni-Château-Corbière, c'était comme ça, et Préjavert. Là encore, la mode vient de Suisse et éventuellement d'Allemagne. Alors, on discute sur le tracé, sur les capitaux à mobiliser. Et l'inauguration a lieu en 1892. Et à ce moment-là, plus de problème pour accéder au site des Corbières. La gare de Puni-Château que vous avez là, sous les yeux, donc, avec un tronçon à double voie pour que les trains puissent se croiser, avec le ravitaillement d'eau des locomotives, la gare de Puni-Château donnait directement sur le chemin qui conduisait au site des Corbières, le chemin que vous avez là, et vous en avez un panneau, malheureusement, peu lisible, qui indique la station. Donc à partir de cette station, on pouvait emprunter sur un chemin de 500 mètres un chemin magnifique, un balcon entre le lac et le revers. Donc le moyen de communication est mis en place. En deuxième nécessité, il faut des capitaux. Et donc on constitue une société des hôtels de Maître des Corbières dont les statuts sont définitivement adoptés en janvier 1894 au moment où la station fonctionne déjà. Il y a trois actionnaires principaux, le docteur Renard, bien sûr, Pierre-Victor Barbier, qui était le président du club alpin et à ce titre un des grands acteurs de la liaison Extra-Renard, et l'entrepreneur Léon Gosse. Ces trois personnes apportent un capital de 90 000 francs. À chaque fois que je vous parlais de francs, je vous donnerai la correspondance en euros, je vous donne les francs correspondants, donc extrêmement rare. C'est en un peu connu. Cette photographie représente l'édification de la station des Corbières, alors avec des ouvriers qui poussent des bâtonnets de blé. Ici, c'est l'entrée de la station, c'est un bâtiment en bois, on en parlait tout à l'heure, qui marque le début. Et donc, vous avez cette photographie qui date vraisemblablement de 1891. Alors, on a planté beaucoup d'arbres, 2000 arbres d'ombra ou de fruitiers. On retrouve la trace des deux filles dans l'entreprise de Ross, et il y a de tout. Hein. Il y a des châtaigniers greffés, il y a 70 marronniers de l'année de la gare, qui sont toujours là. Ils ont été tronçonnés pour les tailler un peu court, mais ils sont toujours là à deux ou trois près. Des rosiers, des arbres fruitiers, il y a même 400 mètres carrés de la vigne, alors évidemment, avec des devis à la hauteur. Alors la société et l'architecte Laurent Fagard ont vu très grand au niveau du bâtiment. Alors, je vais vous demander de faire attention à ce plan, parce que ce plan doit... Il est rare, et ensuite, il va nous occuper pendant toute la soirée. Donc, le bâtiment que vous voyez en construction tout à l'heure, il est là. Hein, et la ligne de wagonnet, la ligne de repérer, était ici. Hein. Alors, ce qui est marqué en gris, c'est ce qui va être construit dans l'immédiat, et en rouge, c'est ce qui était projeté. A été projeté un énorme hôtel de luxe, style le Splendide, vous voyez, sur les hauteurs du Sénat, qui devait être relié par une galerie ouverte ici, mais qui ne sera jamais construit, je vais vous expliquer pourquoi. Par contre, on construit un chalet hôtel, on va le détailler plus tard, donc, on construit des dépendances qui permettent l'entretien de la conservation, et on construit donc ce qui est marqué ici, un café glacé, ce qu'on va appeler une laiterie. C'est les trois éléments qui vont constituer l'embryon de cette station des Corbières, avec ici une terrasse immense de 3000 m² qui permet donc aux visiteurs d'arriver en prenant de la gare jusqu'ici. Donc on retient bien ces trois éléments-là, le château d'hôtel, les dépendances et la laiterie ou le café glacé. Cet énorme ensemble restera au niveau des cartons. Donc premier élément, c'est le chalet hôtel. Alors le chalet hôtel, vous avez cette magnifique photographie, c'est une construction de 201 m², remarquablement équilibrée, avec un sous-sol, un jardin, trois étages, une construction aérée par de multiples galeries-balcons de 2 mètres de largeur, à parois vitrées mobiles, donnant une vue imprenable sur Aix, et permettant la fameuse cure-terre qu'on évoquait tout à l'heure. Le souci du détail est plus très loin, et les matériaux de construction qui sont remarquables, et dans l'inventaire de liquidation 1910, on a le contenu de ce bâtiment. Au sous-sol, 6 chambres pour le personnel, plus une salle de courrier de cuisine. Au rez-de-chaussée, le bureau de l'hôtel ainsi qu'un salon, 2 salles à manger, une grande chambre à coucher pour les malades importants. Au premier étage, 8 chambres, 8 au second et 7 au troisième. À chaque étage, une salle de bain avec eau chaude à volonté, c'est un luxe à l'époque, ainsi qu'un WC, c'est spécifié, avec cuvette porcelaine, siphonnée, réservoir de chasse. Le chalet hôtel peut ainsi abriter 38 à 42 personnes, sans compter 8 à 10 lits pour les domestiques, et le logement nécessaire pour 10 à 12 personnes composant le personnel d'exploitation. Alors, à côté de ce magnifique bâtiment, que vous voyez ici, là, 4 juin, et vous avez 5 trains qui amènent les invités pour cette inauguration. On multiplie également les plaquettes, en particulier cette plaquette qui vante le solarium des Corbières, hein, une plaquette dans laquelle on donne une série d'indications, j'en donne quelques-unes. Cette installation est ouverte toute l'année, les facilités d'accès en chemin de fer, 20 minutes, en voiture, 55 minutes, ou à pied, depuis Aix, 1h10. Cette première établissement de ce genre dans l'État française, qui du fait de son caractère récent, a pu bénéficier de l'excellence de ses aînés, et la plaquette porte un sérieux coup de griffe contre les stations suisses qui sont trop basses, les stations allemandes qui sont trop hautes, donc là ici c'est parfait. On insiste sur la proximité de Paris, 10 heures, et là on porte TGV, la proximité de Londres, 17 heures, le modernisme, il y a le téléphone, les toilettes du dernier cri, de l'eau potable, et on pense que tout le monde peut venir ici, sauf les gens qui sont atteints de tuberculose. La remise en forme, c'est une notion qui est très moderne finalement, s'effectuera, outre l'exposition à l'air idéal de 700 mètres d'altitude, par des cures de lait, de raisin et d'hydrothérapie, mais il fallait être solide parce que on prenait des bains d'eau à 8 degrés. Et puis par le sport, il y a un terrain de tennis, un terrain de croquet et de la gymnastique. Donc tout est prêt pour l'aventure, même si le grand hôtel n'est encore pas construit. Mais malheureusement, à ce dernier point de cette première partie, la rentabilité n'a jamais été au rendez-vous. Alors pourtant, la station climatique des Corbières débute sous les meilleurs auspices. En septembre 1894, un journaliste de l'avenir des Clémins, Émile Delaunay, est-ce qu'on l'a payé, est-ce que c'est spontanément qu'il a écrit ça, écrit des articles dithyrambiques sur la station des Corbières. Je vous en dis un passage où il décrit la station en automne. Il dit, en automne, le site des Corbières est toujours aussi beau, d'autant plus que les curistes peuvent se promener pendant plus de 2 heures par des chemins, des sentiers dans la pente des passeports disconcertants. C'est quand même déjà pas mal. Hein. Alors il décrit ensuite la cure d'air au solarium, où se respire une brise délicieuse et médicale. C'est lui qui écrit toujours. Tellement fortifiant que nous sommes obligés de faire descendre de temps en temps la belle et fraîche jeune fille qui est préposée à la laiterie pour qu'elle n'engraisse pas trop. Tout est parfait. Cure d'air, de lait, de raisin, de terrain. J'avais grandement raison, écrit-il, d'appeler le renard une montagne pharmaceutique, où l'air du solarium, écoutez bien, à cette pureté parfaite qu'Homère attribue à l'air que les dieux respirent sur l'Olympe. Rendez compte la chance des habitants de Pugny-Château, donc c'est fabuleux. Alors la réputation, elle semble se confirmer en novembre 1896, et ça va rester célèbre. Vous avez la une de l'avenir des Clémins qui annonce cela, avec la venue pour 3 semaines des reines de Hollande. À gauche, vous avez Wilhelmine, la reine de Hollande, qui a seulement 16 ans, qui est montée sur le trône depuis le décès de son père en 1890, et elle est accompagnée à droite, l'air sévère, de sa mère Emma, qui approche de 40 ans, donc ce sont les deux reines qui viennent. Elles arrivent en train spécial de Genève, elles sont accueillies par 2 adjoints de maire d'Aix-les-Mains, le préfet, d'autres responsables politiques, et en particulier beaucoup de policiers, dont un personnage fabuleux qui s'appelait Monsieur Paoli. Alors, il s'occupe du service d'ordre des princes, et Georges Ier de Grèce, qui est un habitué des Clémins, l'a surnommé le gardien des rois, parce qu'il était toujours là quand il fallait assurer le service d'ordre des grandes secondes. Et ce Paoli en question, il tombe sous le charme de la reine, de la petite gauche, de Wilhelmine. Il écrit « Une jeune fille aux yeux rieurs, toute rose sur ses nappes blonds cendrées, très simplement vêtue d'une jupe bleue et d'un paletot tailleur, qu'enveloppait un grand bois noir, une voix fraîche qui demandait d'acheter des cartes postales. » Alors ces deux souveraines, normalement, elles arrivent incognito, mais on les accueille en calèche découverte, elles sillonnent les rues pavoisées d'Aix-les-Bains, puis du château, elles passent sous un superbe arc de triomphe, et elles sont accueillies par la fille du docteur Renard, flanquée du directeur gérant, M. Barbier. En les règles et leur suite, une quinzaine de personnes prennent leur quartier aux Corbières, font de longues promenades dans la campagne alentour. Ça leur permet d'entrer en contact avec les paysans du château, parce que, oui, elle parle couramment français. Mais évidemment, ça, départ dès les premières assemblées générales des signes financiers inquiétants, alarment les actionnaires. Les dépenses pour la création du domaine dépassent bien beaucoup le montant du capital souscrit. Donc on est couvert de dettes, la société est couverte de dettes. Les nouveaux investisseurs qu'on aurait pu solliciter pour le grand hôtel qu'on évoquait tout à l'heure, ils ne veulent pas se manifester. Et donc cette situation est particulièrement inquiétante. Alors comment expliquer cette logique manquée? On pourrait dire, si on répond à un langage du 21e siècle, que les responsables ont commis, d'après eux, une erreur de stratégie commerciale, de marketing. La station des Corbières a été conçue, disent-ils, suivant la réflexion du docteur Monard, sur une idée médicale qui a entraîné des dépenses disproportionnées car les dirigeants étaient engagés moralement à apporter à l'installation des établissements les derniers perfectionnements de la science et à acquérir suffisamment de terrain pour créer une cité climatique. Donc tout ça, ça a pris prohibitif. Et donc la société est criblée de dettes, 106 000 francs en arrondissant, soit 339 000 euros. Imaginez ce que ça représente en francs d'avant l'euro. Donc ça pose des problèmes, et quand on a la chance de fouiller des lettres privées, eh bien les gens parlent crûment. J'ai trouvé une lettre de M. Girard, c'est un avocat qui a franc-parlé, qui est un ami du docteur Monard, il lui écrit le 8 avril 1903. Je conçois, cher ami, lui dit, je conçois qu'il était pénible d'abandonner la somme d'efforts dépensée depuis des longues années pour le succès de cette station d'altitude. Ton amour propre est engagé. Tu préfères chaque année engloutir une fraction de tes bénéfices médicaux plutôt que de lâcher la partie, de passer la main. Tu espères toujours trouver un millionnaire qui versera la grosse somme. Mais mon vieux, le monsieur qui a fait fortune et qui raisonne n'achètera jamais les Corbières au prix espéré. Ton intérêt est de faire vendre le domaine dans les meilleures conditions possibles. Et il fait cette remarque. Alors mon vieux, tu as passé l'âge des rêves, il faut entrer de plein pied dans la réalité. Tu en as assez fait, on dira que c'est le docteur Monard qui a créé la station, et ton amour propre sera sauvegardé. Donc c'est pas brillant. Alors comment sortir de ces difficultés? Certains prônent une véritable fuite en avant, en disant, il faut essayer de s'endetter encore plus, de trouver le moyen de construire le grand hôtel, ou même d'agrandir le château hôtel vers le nord. Mais ça semble irréaliste. D'autres prêchent la prudence. Et la prudence, c'est d'abord de jouer la carte du désendettement. Et donc pour ça, eh bien on va vendre à la Société Générale des Eaux Minérales du bassin d'Exclina la source des deux rêves, qu'on appelle comme une source qui jaillit dans le domaine de Puy-du-Château, qu'on appelle comme cela depuis le séjour des reines de Hollande de 1896, et qui va être amenée par canalisation, puisqu'elle est buvette, vous la voyez là, en face de l'endroit où nous trouvons actuellement, sur la place des Termes, une source des deux rêves, donc, qui était alimentée depuis Exclina par une canalisation qui suivait la voie ferrée, une canalisation qui était gravement endommagée en 1934 dans la construction des Termes Pétriot, et ça a cassé l'aqueduc, on va dire, qui a mené cette eau. On va essayer également de vendre le domaine comme sanatorium à des médecins parisiens. Ces médecins parisiens, ils ont l'avantage de ne pas connaître la situation réelle. Il n'y a pas d'audit en vue. Et d'autre part, ils ont peut-être de l'argent. Et Léon Gross va s'investir fortement. Alors, comme il est économe, Léon Gross, il choisit des séjours qu'il fait à Paris parce qu'il est en train d'acheter le brevet pour construire avec du béton armé, le brevet ethnique. Et donc, chaque fois qu'il va faire des séjours pour négocier pour son brevet, il essaie de contacter des médecins, en particulier les médecins de Saint-Germain-en-Laye, mais ça va pas. Le résultat, c'est le dépôt de bilan, et donc la liquidation de la société en 1910-1911. On choisit deux liquidateurs, Jules-Pin Aîné. Donc Jules-Pin Aîné, c'est l'architecte, vous voyez dans son bureau, c'est un très grand personnage qui a construit beaucoup sur Aix, qui va construire aussi le Corbière, on va en parler après. Un architecte et Jean Lecomte, un notaire, qui vont céder les biens de la société et essayer de rembourser en fonction des actions possédées. Et donc c'est un bilan peu brillant, même si en façade, Jean Monard garde la tête haute, écoutez ce qu'il écrit au moment de la liquidation. L'idée qui a présidé il y a 20 ans à la création du domaine des Corbières n'a dans notre esprit rien perdu de son utilité. Son développement a été retardé par des obstacles imprévus et par des forces d'inertie et d'apathie plus fortes que notre volonté et notre persévérance. Mais notre conviction est toujours la même que celle qui était, celle qui existe en 1894. Donc c'est fabuleux, hein, cet optimisme. Quand on réfléchit, on se demande Target. Et alors, elle vit de façon oisive, au gré des saisons, des caprices. Il y a, la famille possède trois châteaux dans le département du Calvados, une magnifique résidence, un tel particulier dans le Bois de Boulogne. Donc les distractions aristocratiques se multiplient, la voile normandie, les cours de chevaux de durée familiale. Et regardez cette ambiance, Madame Galice, vous la voyez là. La voilà ici, donc avec une amie, sur une calèche devant une résidence familiale. Et Madame Galice, elle dispose de 8 chevaux, de 8 attelages, de 8 équipages à chevaux, de 27 domestiques. La vie est belle, hein, pas de problème. C'est une femme bourgeoise comblée. Un seul regret pour elle, elle n'a pas d'enfant. Mais enfin, apparemment, la vie peut continuer comme ça sans problème. Alors, faire un portal, si on voulait parodier quelqu'un, c'est la France d'en bas. Vous voyez ici en tenue de prêtre, c'est quelqu'un qui est né en 1855 dans un petit village des Cévennes. Et il est original dans ce village des Cévennes parce que sa famille est catholique, alors que les Cévennes sont en majorité protestants, et peut-être que ça explique la très grande foi catholique de cette famille. Un exemple, un jour que le jeune Portal était gravement malade, son père a fait la nuit 3 heures de chemin pieds nus pour aller implorer la Vierge Marie, un sanctuaire qui était dans la région, obtenir la guérison de son fils. Alors, plutôt que ça pèse lourd quand il s'agit de choisir une orientation, donc l'instituteur a trouvé que le jeune Portal était loin d'être bête et conseillait ses parents de le faire entrer dans un séminaire où il pourra suivre des études. Alors donc, c'est cet homme qui entre dans un séminaire. À une époque, l'Église catholique donne une image un peu bizarre. Cette Église catholique, c'est un véritable coup de cœur. Elle a peur du progrès qui est en train d'évoluer. Donc elle se rétit, elle condamne les idées modernes, elle renforce sa direction absolutiste. En 1870, Fernand Portal a 15 ans, se déroule le Concile Vatican I qui proclame le dogme de l'infaillibilité pontificale. Alors cette Église, évidemment, pas question pour elle de discuter les religions, les autres religions, le protestantisme, le judaïsme ou autre. Et ce Fernand Portal, c'est là pour eux qu'il y a une force de caractère, parce qu'il choisit quand même l'ouverture. Il choisit d'entrer dans la congrégation des Lazaristes. C'est une congrégation qui a été fondée par Saint Vincent de Paul au XVIIe siècle. Et ces Lazaristes, c'est des gens qui sont très ouverts, qui sont axés sur les missions interétrangères, l'aumônerie, l'ouverture aux intellectuels, l'ouverture aux pauvres. Et le rêve de Portal, c'est de partir à l'étranger. Mais on lui déconseille parce qu'il se sentait extrêmement fragile. Et il devient professeur au séminaire de Cahors. Alors apparemment, voilà deux destins tout à fait différents. On demande comment pouvoir se rencontrer, et on se rencontre à cause de deux chocs, une mort et puis une rencontre vraiment surprenante. La mort, elle frappe Madame Galice, qui en 1906 perd brutalement son mari après quelques jours de maladie. Elle a aussi veuve à 38 ans, complètement perdue, elle n'a pas d'enfant. Alors elle est très pieuse, elle va très souvent prier au Sacré-Cœur, elle discute avec des prêtres, elle se demande qu'est-ce qu'elle peut faire de sa vie. Et quelqu'un lui conseille de consacrer partie de sa fortune et de sa disponibilité aux très pauvres, en particulier dans le 15e arrondissement, à ce qu'on appelle la cité des mousquetaires, ce qu'un journaliste appelle le Calcutta parisien. Je vous donne un extrait du décor, c'est un quartier qui est installé sur d'anciennes sablières. Voilà comment ça se présentait. Un sol défoncé par les pluies, jamais emblayé, sinon rien de détritus infect. Des huttes façonnées avec des débris de bois, des caissons de voiture et des matériaux informes recueillis dans les décharges. Chacune de ces huttes servait à la fois de chenille, de poulailler, d'entrepôt, chiffon et d'abri pour une famille entière. Du milieu de ce pêle-mêle sortent des nuées de petits enfants malins, déguenillés à demi-nus. Ils se roulent avec plaisir sur des tas énormes que grossissent chaque jour les déchets du travail de leurs parents, auxquels ils prennent part eux-mêmes depuis l'âge de 3 ans. Alors si on ajoute quelques malfrats qui sont là dans une zone de non-droit où la police n'ose pas entrer, quelques artisans sur la périphérie, on a la déception d'un véritable sous-prolétariat qui fait penser au tiers-monde d'aujourd'hui. Et c'est dans cet enfer urbain que Mme Galice s'investit. Alors évidemment, elle ne s'habille pas comme on l'a vu sur la première fois. soigne également une maladie pulmonaire, son rapport avec la tuberculose, qu'il a contracté en 1886. Et donc, la plupart, le lazariste rencontre cet aristocrate anglais qui est anglican. Et une amitié extraordinaire naît entre les deux hommes, qui sont deux intellectuels, et il y a des discussions qui se font, et ils envisagent l'idée de rapprocher ces deux églises, l'église anglicane et l'église catholique. Et Portal, qui ne fait jamais les choses à moitié, eh bien, il décide d'aller à Rome, il rencontre le pape Léon XIII, le pape Léon XIII, il est un peu plus ouvert que son prédécesseur, il le rencontre le 20 1894, et il lui propose d'entamer des discussions avec les anglicans. Léon XIII, bon, il lui dit après tout ça, enfin, il pense après tout ça, non, ben, j'ai rien à entamer des discussions, il lui dit, bon ben, d'accord, pourquoi pas, hein. Il lui dit, on va faire un échange radical d'idées, il pense que ça ne va pas très loin. Mais simplement, c'est que Portal ne fait pas les choses à moitié. Il fonde une revue qu'il appelle la revue anglo-romaine. On pourra appeler ça, si on veut parler le langage aujourd'hui, une revue œcuménique, dans laquelle il y a des catholiques, des anglicans qui s'expriment. Alors cette revue ne plaît pas du tout à l'Église catholique, elle est interdite très rapidement. Il en fonde une autre en 1904, la revue catholique des Églises, qui reprend le même combat. Alors là, c'est la foudre qui tombe sur lui. La revue est interdite. On le prive de son poste de professeur dans un séminaire à Paris. On le force à s'exiler dans un village perdu de Seine-et-Oise. Il est complètement marginalisé. Et là, par un ami commun, il rencontre Madame Calice. Et il voit que, c'est son biographe qui parle, parmi les chiffonniers et les ouvriers, il pourrait réaliser concrètement sa triple vocation de lazariste, de missionnaire avec lui. Donc, c'est lui qui va devenir en quelque sorte le conseiller technique de Madame Galice. Et son biographe dit qu'il devient un spécialiste de l'apostolat en zone urbaine anti-religieuse. Il dit à Madame Galice, à celle qui travaille avec elle, surtout ne cherchez pas à convertir les enfants et leurs parents, apportez-leur une aide sans plus. Alors cette aide, elle prend pas mal d'ampleur parce que bientôt, Madame Galice, elle construit un bâtiment en dur, les enfants sont accueillis pour des cours d'hygiène, de couture, de dessin, même un enseignement professionnel. Elle met bien en place un internat stable pour les petites filles dont les parents ont de grosses difficultés. Et tout ça, ça prend de l'ampleur. Et le père Portal, elle imagine de trouver un endroit pour installer une colonie de vacances. Et alors là, évidemment, les corbières ne sont pas très loin. Alors le choix des corbières, c'est quelque chose d'assez curieux. C'est un enchaînement d'idées très bizarre. En 1914, la guerre éclate et Madame Galice part en Suisse. Alors, ça dépend comment on veut voir les choses. Soit on dit la peur de l'invasion de Paris va se mettre à l'abri. Soit, c'est la version que donnent certains de ses biographes, elle a envie de se reposer, elle est un peu fatiguée par l'action qu'elle a menée dans le quartier des chiffonniers de Javel. Elle veut aller se reposer. Mais ça se passe très mal en grande partie au cours d'une bousculade à la gare de Lyon. C'est la commune avec les mouvements de tour, etc. Elle est renversée, elle tombe lourdement sur la hanche, et elle ne va jamais s'en remettre. Et donc elle a de gros problèmes, le séjour en Suisse se passe très mal, elle revient quelques mois plus tard en France, elle est mal en point, et son médecin dit après tout, elle a un problème, on va l'envoyer dans la station climatique de réputation nationale et internationale, Aix-les-Bains. Donc elle arrive à Aix-les-Bains, elle n'a pas envie d'habiter dans un bâtiment dans la ville. Et il y a un marchand de fonds qui lui dit, moi j'ai un hôtel sur une petite commune à 7 km, plus du château, qui est à louer, qui veut m'apprendre. Ben, elle le loue pendant 6 mois. Elle en parle au père Portal, et puis finalement, elle l'achète en mars 1907. Et le père Portal, il enthousiaste, il vient voir, il écrit à son ami Halifax, la propriété se trouve aux environs d'Aix, dans une très belle situation, 700 mètres d'altitude, avec une vue sur l'aigle du Bourget, sur les montagnes d'entourent de ses. Alors évidemment, ce bâtiment qui était un peu à l'abandon, il faut faire de gros travaux, c'est l'entreprise de Longbourg qui s'en charge, en pleine Première Guerre mondiale, en 1916-1917, des aménagements coûteux sont faits pour construire une chapelle, pour mettre en place un réfectoire, une infirmerie, des dortoirs. On met en place une structure juridique qui s'appelle la Société des Cornières, qui est née en 1919. Le père Portal recrute quelques jeunes filles qu'il souhaite garder laïque. Pas qu'elles entrent dans les ordres. On va les appeler les dames de l'Union, bientôt il y aura 13 personnes, en particulier une personne, Suzanne Beau. qui a fondé le CICR, qui a l'argent, hein, elle recrute pour aider un personnage, un ex-soir, que vous voyez donc en haut à gauche, qui s'appelle Eugène André, qui a 41 ans en 1920, le recrute comme chauffeur. Vous voyez ici qu'il est photographié dans sa livrée de chauffeur, il avait une casquette, il l'a enlevée pour la photographie. Il conduisait cette magnifique Delage de 1925, qui est une voiture de 14 chevaux, et quand Madame Galice est morte, la voiture elle a été vendue à l'entreprise Packard, qui fabrique des cloches à Annecy. Et ce Eugène André, donc il est chauffeur, il emmène Madame Galice avec ses mains, il emmène très souvent à Genève, où Madame Galice va dans les banques, où il a des comptes, et elle revient avec des monceaux de billets dans son sac à main. Mais il va également, cet Eugène André, il rend service aux habitants du château en leur remontant des médicaments de la pharmacie. Hein. Il s'occupe également de la surveillance du domaine, en particulier du contrôle de l'eau, du chauffage qu'il sert dans l'hiver. Donc c'est un peu l'homatifère, un personnage très dévoué. Il marque bien. Hein. La question de Saint-Joseph, pour la fois qu'elles l'ont vu, la directrice, elle a dit, c'est quelqu'un qui, c'est un bon savoyard qui a l'air d'un anglais. Parce que, donc, il en imposait pour lui. Et cette Madame Galice, non seulement elle embauche du personnel, mais elle va faire des aménagements. Vous vous rappelez la photographie que j'ai montrée tout à l'heure? Eh bien, vous voyez que là, le bâtiment, il a grandi. Il a grandi. Il est complètement déséquilibré. Vous voyez, avant, vous aviez ce bâtiment qui était là. Et Madame Galice l'a fait agrandir sur sa face nord, c'est-à-dire ce côté nord. C'est l'entreprise Bosqueto qui a réalisé cet agrandissement en 1921-1922 au moyen d'une galerie de couloirs aménagée à chacun des quatre niveaux de la construction, complétée par trois chambres avec des cheminées en marbre, 130 000 francs la facture, soit 117 000 euros. Alors, cette aile nouvelle, elle dénature un petit peu l'équilibre du bâtiment, de telle sorte que vous allez voir dans la photographie d'après, les photographes souvent s'arrangent pour masquer par la végétation cet aspect. Donc voilà la nouvelle installation. Et pendant ce temps, Fernand Portal, lui, acquiert une nouvelle dimension. Je n'insiste pas dans ce propos ce soir. Il acquiert un rayonnement intellectuel d'approche œcuménique en étant un petit peu le leader d'intellectuels catholiques, en entrant en contact avec des orthodoxes dans la Russie qui est en train de basculer dans la Révolution de 1917, et surtout, et c'est assez fabuleux, il est un des organisateurs en simplifiant ce qui a précédé le Concile Vatican II en 1960, hein, les conversations de Malines en Belgique en 1921-26, où sont rencontrés des catholiques, des anglicans, pour discuter d'une réunification des églises. Mais ce père Portal, qui est un intellectuel, eh bien, il reste très attaché à Petit-Château. Alors, vous le voyez ici, le père Portal, sur cette photographie, le voilà. Madame Galice est ici. Ici, c'est l'institutrice qui s'occupe des enfants. Et donc, ce père Portal, il aime bien être aux Corbières, parce qu'il estime que le domaine des Corbières, ça crée un lieu de prière à côté d'un lieu charitable et ça réalise l'idéal chrétien, la contemplation et l'action. Il est au milieu des orphelines, il aime bien rire avec elles, il est enseigné du catéchisme. Bientôt, un de ses grands soucis fut de marier les pensionnaires les plus âgés et les problèmes, c'est son biographe qui parle, les problèmes de ces pensionnaires vont le tourmenter davantage que l'exégèse biblique. Il crée avec Madame Galice un atelier de tricot dont le produit déposé sur des livrets de caisse d'épargne était remis aux jeunes filles le jour d'un mariage. Dans une lettre à Saint-Thérèse, la supérieure des sœurs de Saint-Joseph, qui vont prendre la suite, il écrit ces lignes, incroyables. Hein. Hier, j'ai béni le mariage de l'aîné de nos enfants et l'ai épousé le fils d'un petit propriétaire voisin. La jeune fille a gagné 3000 francs, 1500 euros. On lui a donné 2000 francs, 1000 euros, de la maison. Tout s'est admirablement passé et j'en suis heureux parce que cela pose nos enfants dans le pays où je désire qu'elles soient honorablement considérées. C'est extraordinaire ce père Portal qui est capable donc, de prenez cette photographie qui date de 1926, qui vous montre les échafaudages de construction de la chapelle réalisée par l'entreprise Boschetto. C'est Jules Painé, l'architecte qu'on a vu tout à l'heure, qui a fait les plans. Ça coûte une fortune, 639 000 francs, soit 324 000 euros, parce qu'il y a des gros problèmes avec le dôme que vous voyez là, qu'on fait en béton armé, il faut éviter les fissures, un coffrage spécial, il y a des ferronneries, un hôtel, etc. Donc c'est une réalisation de grande envergure. Vous la voyez, cette chapelle, peu de temps après sa réalisation. Et ce qui est intéressant, parce que aujourd'hui ça a disparu, c'est de voir l'intérieur de cette chapelle, parce que c'est une photographie du temps des sœurs de Saint-Joseph. L'intérieur de cette chapelle, c'est une chapelle avec des piliers qui sont très colorés et avec des vitraux du cœur qui ont été déposés depuis. Le vitrail central, il indique le Christ, il représente le Christ au lieu de ses 11 apôtres. Le vitrail de gauche, il représente l'adoration des mages. Et le vitrail de droite, il est intitulé la Dormition de la Vierge. Alors, la Dormition de la Vierge, c'est le langage qu'ont les orthodoxes pour parler de l'Assomption, c'est-à-dire l'élévation de la Vierge dans le ciel, je vous en parlais tout à l'heure avec les sœurs de Bethléem. Et dans les vitraux latéraux, par là, vous avez l'adoration des mages, vous avez également des saints qui ont évangélisé les Slaves, Saint Cyril et Saint Méthode, qui font en quelque sorte un trait d'union entre l'Orient et l'Occident, et les textes qui présentent ces vitraux sont écrits en grec, en latin, pour rappeler le caractère œcuménique de l'Église. Et donc, Portal, le père Portal, il voulait cette chapelle, et il disait en paraphrasant le docteur Monard, on viendrait dans cette chapelle faire une cure d'air spirituel. Donc, cette chapelle est réalisée, et elle est sur de Saint-Joseph, donc, elle prend la suite. Alors, c'est pas facile. D'abord, parce qu'il y a des problèmes matériels, il faut faire venir 5 sœurs qui vont gérer un groupe de 16 orphelines, il faut mettre en état les bâtiments, etc. Une épidémie de diphtérie qui se déclenche pour vacciner tout le monde, on campe dans les locaux de l'école en attendant la désinfection, etc. Autre problème, il y a des problèmes relationnels avec Mme Galis, qui est vieillissante, qui est fatiguée, etc. Ça se passe pas très bien. Les sœurs de Saint-Joseph doivent déployer des trésors de diplomatie pour qu'il n'y ait pas de clash. Hein. Alors ça dure malheureusement pas trop longtemps parce qu'en juin 1932, Mme Galis tombe malade. Là, vous avez une photographie donc, de l'intérieur de l'église, de la crypte de l'église, une photographie d'époque qui montre la tombe du Père Portal tout au fond à gauche. Et donc cette photographie, vous la trouvez très émouvante, c'est Mme Galis sur son lit mort, entourée des petites orphelines. Donc c'est sa dernière photographie publique. Donc elle va mourir le 19 août 1932, dans des conditions extrêmement difficiles. Elle a des abcès dans la gorge, son corps se paralyse, etc. Et donc elle meurt en ce 19 août 1932. Ses funérailles furent, disent les journaux de l'époque, un véritable triomphe, dans des sentiments de profonde vénération de reconnaissance. Le pauvre y couloyait le riche. La commune de Puy-Château, évidemment, est largement plantée par son curé qui célèbre la messe, par le conseil municipal au grand complet, mais d'autres autorités religieuses, le père supérieur, comme l'archevêque du Chambéry, etc., ont fait le déplacement, et Mme Galis, je pense que ça tombe tout à l'heure, est enterrée dans la crypte de la chapelle, en face le cercueil du père Portal. Alors, rapidement, quelques éléments qui sont pour rappeler une chronique de la vie des sœurs de Saint-Vincent, de Saint-Joseph, pardon, quelques faits rapides. D'abord, ces sœurs, elles ont une obsession, comme on les comprend, hein. Elles veulent disposer d'un aumônier, parce qu'elles ont besoin d'écouter la messe chaque jour. Alors, elles ont mis des fils, certains sont plus ou moins recommandables, plus ou moins bizarres, je ne citerai pas de nom, mais il y a par exemple un prêtre qui était venu de Douvaine en Haute-Savoie. Il est un peu curieux, il n'avait pas la très équilibrée. Et un beau jour, en pleine cérémonie, au milieu de la messe, il a abandonné tout le monde. Il est parti de la chapelle, il est rentré au Savoie, il n'est plus un homme, jamais revenu. Il y en a un autre qui était un curé du quartier de Javel, qui était venu là pour passer quelques mois. Mais il est parti avec la caisse. Il est parti avec une somme d'argent qui était stockée pour entretenir les aumôniers. Alors il a expliqué qu'il avait des travaux à faire dans son église de Javel. hiérarchie catholique. Les sœurs sont extrêmement et avec l'archevêque de Chambéry, il y a parfois des affrontements. Surtout quand l'archevêque installait un petit château, un orphelinat de garçons. Et moi, je suis les sœurs. Et un orphelinat de garçons, à côté d'un orphelinat de filles, pas possible ça. Hein. Il y a la même sœur qui écrit à l'archevêque en disant on va construire, si vous faites ce projet, on va construire une clôture avec 6 rangées de fils de fer barbelés. Donc, ce vrai, ça compte, c'est abandonné. Tant mieux pour elle. Alors il y a des problèmes matériels qui se grèvent là-dessus, qui font vivre. Hein. Là, vous avez donc l'équipe des sœurs qui sont là, en plein milieu, donc en bas, ici. Sœur Thérèse, la supérieure, qui va faire toute sa carrière ici, et qui coiffe tout l'ensemble de son autorité. Hein. Et ces sœurs, elles encadrent donc des orphelines. Regardez le bâtiment, et regardez le petit clin d'œil que vous avez tout à l'heure, la partie gaule du bâtiment est soigneusement masquée par le photographe, donc pour masquer des équipements. Là on a l'air de bien s'amuser, c'est une pause, hein, dans le, ici. Et vous avez un autre élément, donc c'est une phrase d'émouvement, une photographie qui date de 1932, que Suzanne Bocquet a intitulé Les Corbières, les petites filles des Corbières. J'aime bien la petite là qui est sur le premier rang, qui tient sa poupée. Hein. Bon, elles sont en dimanche, mais c'est peut-être pas forcément toujours très drôle. Là, vu de la roseraie qui était dans le domaine des Corbières et qui servait à fournir des roses pour les cérémonies religieuses, et cette photographie, je l'aime bien, c'est la particularité de ses sœurs qui n'hésitent pas à mettre la main à la pâte, ça n'a rien à voir avec les sœurs de métier d'aujourd'hui. Vous voulez vous envoyer deux, vous êtes en train de travailler aux boissons, parce qu'il y a un domaine qui est là, il y a deux employés qui travaillent, hein. Ce domaine, il est installé dans les dépendances que vous voyez tout à l'heure, il va fonctionner jusqu'en 1959, en 1959, l'exploitation agricole va cesser. Mais il y a toujours une série de problèmes, et les sœurs vont être amenées à construire une école nouvelle. Alors cette école, eh bien, on l'a construite sur l'ancien chalet, l'ancien chalet, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. On laisse le sous-bassin en pierre, hein. On rase la construction en bois donc, que vous avez vu construire sur les photographies que vous avez vu réaliser, et on construit cette réalisation en 1953-54. C'est très à la mode, les constructions dissymétriques, les structures dissymétriques à l'époque. Donc c'est un bâtiment qui est fonctionnel, qui correspond à une grande salle de classe, avec des douches, des toilettes. La partie supérieure, c'est un logement pour l'ouvrier, hein, et l'institutrice Odette Corral, elle est bien contente de travailler dans ces conditions. Malgré tout, les choses évoluent dans le mauvais sens, dans la mesure où le nombre d'enfants diminue à partir de 1965, il n'y a plus que 22 enfants, au lieu des 30 des années précédentes. Les enfants vont dans une nouvelle structure scolaire, et en plus, il y a la crise des vocations. Ça frappe purement donc, les sœurs de Saint-Joseph, et finalement, cette société s'étiole et on décide de fermer l'orphelinat en 1970. Et en 1971, d'autres sœurs, des sœurs contemplatives arrivent, et ça va être la troisième partie de l'année de cet exposé. Alors, ces sœurs contemplatives, elles correspondent, pour qu'on comprenne, les sœurs de Bethléem, elles correspondent à une exigence religieuse, on peut dire renouvelée. Pour comprendre, il faut retenir le nom exact de cet ordre religieux, ça s'appelle la famille monastique de Bethléem, de l'Assomption de la Vierge de Saint-Bruno. Alors à froid, ça c'est sûr que ça surprend, hein. Donc les sœurs de Bethléem, de l'Assomption de la Vierge de Saint-Bruno. Je vais vous décoder ces trois expressions, vous allez comprendre l'originalité des choix qui sont faits par ces sœurs qui occupent le bâtiment depuis 1971. Je vais commencer par la deuxième partie, la deuxième expression, l'Assomption de la Vierge. Ça remonte à 1950. Le 1er novembre 1950, le pape Pie XII fait une cérémonie sur la place Saint-Pierre à Rome, où il proclame le dogme. Le dogme, c'est pour les catholiques, c'est une croyance à laquelle on ne peut pas contester, hein, qui ne discute pas. Le dogme de l'Assomption de la Vierge, que ça veut dire, si on prend un langage de tous les jours, ça veut dire contrairement à quelqu'un qui meurt, et d'après l'idéologie catholique, la religion catholique, donc son corps est enterré, son âme monte au ciel, hein, en faisant des stages éventuellement donc, au purgatoire, on a un enfer. Là, la Vierge, quand elle est morte, 32 couvents, il y a 28 couvents de religieux, de moniales, et seulement 4 couvents de moines. Donc on pourrait presque dire que les monastères étaient, c'est une affaire de femmes, c'est une affaire de religieuses, les religieux sont marginaux. Alors, c'est ce petit groupe de Françaises décide de lancer l'expérience en 1951 dans un petit village à côté de Sens, au sud de Paris, le village de Champs, où on fait la première communauté contemplative. L'idée de ces gens, c'est de vivre dans le silence de la prière, loin du regard des hommes. Alors, on n'a aucun moyen financier, on trouve une ancienne ferme, une vieille étable, et on s'installe dans cette étable. Et vous avez compris. Donc, pourquoi on va parler de la famille de Bethléem, donc allusion à la naissance du Christ, donc dans les tables. Et ce nouvel ordre religieux, il est reconnu tout de suite par l'évêque de Sens, qui joue bien le jeu, mais ses collègues, ils sont plus réticents. Ça date de 1951, la communauté de Champs, il faut attendre 1986 pour que tous les évêques à travers la France, à travers le monde, reconnaissent ces ordres religieux. Il faut attendre 1998 avec Jean-Paul II pour que ça soit reconnu par la papauté. Alors, la troisième chose, c'est la référence à Saint Bruno. Parce que les moniales, éventuellement les moines, ils acceptent de vivre à l'image de l'ordre fondé par Saint Bruno au 11e siècle, c'est-à-dire l'ordre des Chartreux, en faisant vœu d'obéissance, de virginité, de pauvreté et surtout de solitude. Et ça, c'est la caractéristique des Chartreux. Saint Bruno a souhaité reprendre une pratique spirituelle lancée au 4e siècle en Orient, les Lords. Les Lords, elle a eu une reste, qu'est-ce que c'était? C'est des cabanons, des grottes individuelles, non seulement espacés les uns des autres, mais concentrés qu'à une petite église et un des lieux de vie. Durant la semaine, les habitants des Lords vivent en solitude avec Dieu, et chaque dimanche, tous se rassemblent à son liturgie fraternelle. Si vous voulez, c'est tout le contraire des monastères classiques qu'on trouve en Occident, où c'était communautaire. Là, c'est la vie individuelle. Et on adopte ce style de vie. Et lui, en général, il faut reconnaître que les sœurs de Bethléem, elles sont complètement fascinées par l'Orient chrétien. Et pourquoi elles sont fascinées par l'Orient chrétien? Parce qu'elles considèrent que c'est là qu'on trouve l'Église catholique primitive, les premières régions où elle est christianisée. Et du coup, elles sont fascinées, elles ont été fascinées longtemps, maintenant c'est un peu tassé, mais elles ont été fascinées longtemps par l'Église orthodoxe. Et moi je trouve quelque chose d'extraordinaire. En 1971, quand les sœurs sont venues s'installer au Corbière, certaines avaient suivi, avant de venir au Corbière, des cours à Paris, à l'Institut théologique orthodoxe de Paris, l'Institut Saint-Serge, vous vous rendez compte, hein. Et même certaines avaient fait des séjours dans des monastères orthodoxes grecs, comme si elles voulaient gommer le schisme de 1054 et lui la rupture entre les chrétiens d'Occident et les chrétiens d'Orient. Et de même, on est frappé de voir la place des icônes. Alors vous voyez, là vous avez une vue de la chapelle nouvelle, on va en reparler après, ça s'appelle la chapelle de l'unité. Changement de décor, vous avez vu, les vitraux qui étaient là ont complètement disparu, c'est le dépouillement le plus total. Et par contre, vous avez ces peintures qui sont là, qu'on appelle des icônes, je vais vous montrer des gros plans. Hein. Et donc ça, c'est caractéristique de l'Église orthodoxe. Et donc, vous voyez, même les piliers de l'Église ont été revêtus de béton pour qu'ils aient un néo-passe-partout, c'est le dépouillement. Là, voilà, gros plan des deux icônes qui se trouvent de part et d'autre de l'autel. À gauche, vous avez l'icône de la Vierge et de Jésus, et à droite, donc, l'icône de Jésus. Et ces icônes, ça représente quelque chose d'assez spectaculaire. C'est un père orthodoxe qui est venu pendant 7 ans à Puy-Château pour apprendre aux religieuses à peindre ces icônes. Il s'appelle le père Dropot, et donc il a organisé ça. Et j'ai trouvé un texte d'Anne et de Henri de Clos qui résume bien l'originalité de la démarche des sœurs de Bethléem. Ce passage, les moniales, les religieuses, hein, nourrissent leur spiritualité de toutes les richesses des pères grecs et de la tradition orientale. Hein, c'est leur grande idée. Parmi les activités qui aident à leur subsistance, elles s'adonnent à la peinture d'icônes, conçues non comme une simple technique, mais comme une méditation et une ascèse. Elles s'inspirent beaucoup pour leur célébration de la liturgie de Saint-Jean Chrysostome, c'était l'évêque de Constantinople. l'ancien chalet hôtel qui a été conçu par le docteur Bernard. La partie nord, celle qui a été agrandie en 1922 par l'entreprise Boschetto, avec le revers en arrière-plan. Vous avez cette autre photographie qui vous montre le monastère. Tout ça, c'est interdit d'y aller. Hein. C'est dans la clôture, on a obtenu une autorisation spéciale. Et on est obligé de montrer nos photographies pour obtenir l'imprimature pour les faire sortir. Hein. Là, vous avez la façade sud et la façade qui donne, donc la façade sud ici, et la façade qui donne sur le Romain, largement envahi par la lumière avec les balcons, hein, ceux hérités de 1893, qui sont un peu mal en point. Autre photographie, là c'est le bâtiment actuel tel qu'on voit tourner sa façade sud-ouest, telle qu'elle est tournée vers le lac du Bourget, la Tour du Chat. Donc les sœurs s'installent ici. Hein. Là vous avez le bâtiment vu de l'arrière, hein. Toujours ce bâtiment vu de l'arrière, toujours avec le souci des. Là c'est le côté nord, hein. Toujours le souci du photographe d'estomper, qui déséquilibre la masse du bâtiment. Et donc, c'est cela, elle s'installe ici. Et elle s'installe donc toute heureuse de se placer dans l'ombre, on peut dire aussi du Perpental. Et il se déroule ici, j'insiste pas, le 20 juin 1976, une cérémonie assez marquante qui symbolise le cinquantenaire de la mort du Perpental. Il y a des représentants des églises orthodoxes grecques, des églises anglicanes, des églises orthodoxes russes, des églises protestantes, évidemment des églises catholiques, qui après des cérémonies à Chambéry viennent donc à Puy-Château, lisent des textes, font allusion à tous les précurseurs de l'œcuménisme et descendent derrière la délégation anglicane dans la crypte de la chapelle pour se recueillir sur la tombe du Père Portal. Et de quoi satisfaire tardement Lord Halifax en l'année 1897, où c'était la déprime pour eux, où le Portal était agressé par l'Église catholique. Il écrivait à son ami, Portal, un jour, on verra que nous avions raison. Alors, je n'insiste pas là-dessus. Par contre, je vais insister sur ce dernier point, sur un tiers de siècle de vie, monacale au Corbière. Alors, les sœurs de Bethléem, elles ont un schéma préconçu de monastère idéal, et voici le dessin. Un monastère idéal, d'après elle, devrait se composer de trois espaces distincts. La maison d'en haut, vous voyez, c'est suffisamment écrit, hein. La maison d'en haut, qui est strictement réservée à la prière, au travail en solitude, ce qu'on appelle le désert, donc un espace cloîtré dans lequel seuls pénètrent ceux qui sont consacrés au Seigneur. La maison d'en bas, vous la voyez, bien distincte de la précédente, elle est aussi cloîtrée avec quelques moniales qui vivent en solitaire, mais qui ont la charge d'accueillir ceux qui vivent qui viennent au monastère. Et enfin, si certaines personnes proches souhaitent rencontrer les moniales sans pour autant s'immerger dans le silence et la solitude, elles peuvent le faire dans le parvis externe, hors de la clôture. Le parvis externe, il serait là. Donc trois éléments bien distincts, un élément complètement verrouillé, un deuxième ou trois quarts verrouillé, et un troisième un peu ouvert. Alors, il est bien certain qu'il s'agit d'une organisation parfaite, et ça serait possible si le monastère naissait ex nihilo, de rien du tout. Mais compte tenu de l'héritage du docteur Monard, des travaux de Madame Galis, etc., il a fallu vivre avec ce qui existait. Et donc, l'ancien chalet hôtel regroupe l'essentiel des moniales, qui, contrairement, par exemple, à ce qu'on trouve au monastère du Tourmenet dans le Var, ne vivent pas dans des petits héritages isolés. Elles vivent là. Alors elles sont 19 au total, les sœurs ne peuvent pas toutes habiter dans le chalet-hôtel recouvert de vie de vierge comme j'ai vu tout à l'heure. Il y en a quelques-unes qui vivent dans les dépendances qui ont été aménagées pour ça. La construction à l'entrée de la clôture, l'ancienne école, hein, eh bien c'est ce qui permet d'accueillir les personnes de passage, tout en de parvis externe. Alors évidemment, quand on discute avec les sœurs de BTM, elles rêveraient de modifier tout ça. D'abord, elles trouvent que la chapelle de l'unité, c'est le nouveau nom qu'on donne à la chapelle construite pour enterrer le Père Portal, je trouve qu'elle est un peu marginalisée par rapport au chalet hôtel. Et sur le 5h du matin, quand on va faire des prières, ça peut poser des problèmes les matins d'hiver. Donc, elles ont déposé à la mairie du château un permis de construire également pour les sœurs, le problème des sites, c'est assez plus dur. Vous savez, les religieuses, ou les religieuses, ils aiment que quand quelqu'un de la communauté disparaît, ils sont enterrés sur place. Là, vous avez un gros plan photographique dans la crypte, en face de la tombe du Père Pantal, de la tombe de Madame Galis. Donc, et cette tombe de Madame Galis comporte une inscription, vous pouvez y aller, hein, la voir, hein, et elle comporte une inscription, donc, Petite Sœur Akiko, 1903-1981. C'est la seule religieuse, c'est une japonaise, qui est morte de froid en 1981, dans le 8 février 1981, dans la... l'espace des Corbières. Donc cette petite sœur, c'est la seule religieuse qui soit morte dans le couvent et on ne sait pas quoi faire de sa dépouille et on l'a mise dans le caveau de Madame Galis. Évidemment, si une nouvelle sœur meurt, on va trouver une autre solution. Alors vous demandez peut-être quelle est la journée du monial. Eh bien, je vais vous écrire ça après ce qu'elles vont expliquer. Hein. Donc, la journée s'articule de façon qu'à un temps de prière d'environ 3 heures, s'intégrer dans le rythme du journalier. Alors quand ça se passe concrètement, petit déjeuner extrêmement frugal, très tôt, et à 7h du matin, 7h15, par la chapelle de l'unité, on participe au matin, lecture de psaumes bibliques de chant, suivi d'une messe à 8h15. À 9h30, de retour dans les cellules, donc dans le bâtiment du chalet, l'hôtel ou dans les dépendances, c'est l'office du tiers, prière d'environ 7 minutes, une demi-heure de détente, clôt tout ça. Ensuite, de 10h15 à 11h45, c'est le temps des études, axées sur la formation, alors, études de la Bible, écoute du cours enregistré. Actuellement, il y a une religieuse qui est spécialisée dans la langue grecque et dans la langue hébraïque, donc elle donne des cours aux autres sœurs hein, de ces matières. À 11h45, l'office du sexe termine la matinée, là encore c'est une prière individuelle en cellule pendant 7 minutes. À ce moment-là, on prend le repas, en cellule apporté par une sœur qui est finie chaque jour pour ce service. Alors, apparemment, d'après la mère supérieure, il y a des différences de qualité de cuisinière entre les sœurs. De 12h30 à 16h45, il y a le temps du travail manuel, qui fera la cuisine, le ménage, la lingerie, l'artisanat, prolongé par l'office de nonne en cellule de nouveau. À 18h, après le repas, on prend la tour de chapelle pour les vêtres, suivi à 18h45 d'un temps de prière en cellule. Chacun achève ensuite sa journée par l'objet des compris. Donc, une vie rythmée par le silence, les activités manuelles et intellectuelles, surtout par la prière. Alors c'est comme ça tous les jours, sauf le dimanche. Le dimanche, c'est défoulement. C'est un jour communautaire marqué par un autre rythme. Alors d'abord, on part au réfectoire, tout ensemble. On ne parle pas pour autant. On mange en silence. Quelqu'un, une sœur, fait lecture. Ensuite, on sort pendant 2 ou 3 heures dans la campagne culturelle. Et là, c'est toujours surprenant quand on voit ses sœurs, elles ont le droit de parler, ça rit, ça parle de tout et de rien, ça sourit dans tous les sens. Elles sont en groupe ou elles sont en plusieurs groupes. Hein. Elles tapotent entre elles, elles causent avec les gens qu'elles rencontrent sur leur chemin. Visiblement, ça leur fait un bon plaisir. Quand, après ces escapades de 2 ou 3 heures, elles reviennent pendant 1h30 pour discuter de textes, de l'évangile, point d'actualité. Car le monde extérieur entre dans le couvent, alors par télévision, par radio, c'est impensable, mais la presse triée, la Croix, la France catholique et la documentation catholique. Et donc les sœurs, elles lisent ça, elles discutent d'articles, etc. Et ces sœurs, elles sont électrices. Et souvent on les voit arriver à la mairie en groupe. Elle vote on va pas dire comme un seul homme, une seule femme, pas du tout. D'après la mère supérieure, on a expliqué que chacune est libre de voter comme elle l'entend. Elle ne reçoit pas de conseil de vote, mais bon, certainement qu'elle sera influencée par ce qu'elle dit. Hein. Alors, si on veut rester sur les contingences terrestres, comment assurer la marche matérielle du monastère? Mais d'abord en bénéficiant de ressources procurées par un artisanat de grande qualité. Un artisanat donc, d'art religieux, là vous avez, je vais en parler tout de suite, une partie du magasin qui expose donc les productions, et je vais vous dire à qui les fabrique, un art religieux avec des statues d'inspiration romane gothique en chêne massif. Vous en voyez donc sur la gauche de la photographie, qui frappe vraiment par leur beauté, la sérénité des personnages mis en scène, des crucifix, des paroliers sont sculptés. vaisselle, on en reparle, je vous en parle tout à l'heure, des produits naturels qui viennent de diététique. Alors, il est bien certain que chaque monastère, c'est pas une manufacture, hein, chaque monastère ne fait pas toutes ces séries de production. Des choix réalisés qui tiennent compte de la compétence des moniales présentes, des équipements qu'elles disposent. À plus différents fois, pendant longtemps, on a été spécialisé dans l'artisanat du bois, la fabrication de ces statues magnifiques. Un atelier qui s'appelait l'atelier de Saint-Joseph envoyait 5 personnes compétentes et fabriquait donc ces produits artisanaux. Mais depuis 2001, cet atelier a été fermé à cause de tant de problèmes qu'on évoque moins. Donc, on évoque publiquement des problèmes de gestion, des difficultés aussi pour les machines. Il y a des machines perfectionnées pour dégauchir les bois avant la structure finale qui se faisait à la main, et on n'arrivait pas avec les ordinateurs. Et finalement, donc, tout ça s'est abandonné, les bâtiments restent, mais ils sont abandonnés. Et c'est un monastère à Mougères, près de Montpellier, qui a repris ce flambeau. Les corbières, pendant longtemps, ont été spécialisées dans la peinture d'icônes. Maintenant, les corbières sont spécialisées dans ce qu'on appelle la vaisselle d'or. C'est une fabrication qui a été déposée. Et vous avez cette photographie. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que cette vaisselle d'or? Eh bien, c'est des poteries qui sont fabriquées, que les sœurs achètent brutes en Espagne ou à Valoris en France, et qui sont peintes, souvent de façon avec des teintes très noires dorées. C'est assez joli. Et donc c'est la grande spécialité actuellement de ces sœurs. Donc son magasin, il vient donc à 10 heures pour le visiter, si c'est pour acheter, ou on prend un téléphone et on appelle des sœurs pour qu'elles ouvrent la porte et qu'on puisse visiter ça. Donc c'est une grande partie des ressources de ce monastère, donc qui abrite les productions du château, les productions d'autres de tous les monastères. Seconde ressource de revenus, c'est l'accueil des personnes qui souhaitent passer quelques jours aux Corbières, alors soit des retraitants en silence et en solitude qui veulent partager la vie démoniale, il y a 5 places disponibles, soit des familles qui simplement viennent visiter les sœurs, alors ces personnes, ces gens en priorité, d'été et pendant les vacances scolaires, et donc elles donnent une contribution financière, contribuent à entretenir la communauté. La communauté profite également de dons divers, de dons en argent, de travaux effectués de temps en temps par les dexémins. Des dons en argent sont très prisés. Actuellement, si vous allez voir la chapelle de l'unité, sur la porte, il y a une affiche, c'est la première fois qu'elle est placardée, qui dit que, vu l'augmentation du soul, cette année, les sœurs ne pourront pas chauffer la chapelle, parce qu'il leur faudrait 6 euros pour payer le remplissage de la cuve, et donc elles vont être obligées de fermer, à moins d'un don exceptionnel, à moins d'un mécène qui arrive, et les chapelles cet hiver, c'est pas encore ça. Donc elles vivent en grande partie de ces dons. Elles vivent également du bénévolat. Quand la chapelle a été refaite au cours des années 1980, quand on a en quelque sorte détruit le décor qui existait à l'origine pour faire quelque chose de très sobre, de très dépouillé, eh bien c'est un architecte, Philippe Quinquet, l'architecte de l'atelier d'architecture en Bagne de Bassins, qui a travail. Il y a des professionnels qui étaient là, mais il y a également beaucoup de bénévoles qui ont travaillé sur la toiture, sur le chauffage au sol, sur le tapis extérieur, sur la rénovation intérieure, en déposant les vitraux, etc. De même, il faut nettoyer l'immense parc du monastère, et il y a un monsieur qui est là, à 9h, qui essaie de mettre les choses. Au dire des plus durs, le parc du monastère est nettement bien, moins bien entretenu du temps des sœurs médiévales que du temps des sœurs de Saint-Joseph. Alors parmi les dons, la nourriture ne doit pas être négligée. Lorsqu'elles sont arrivées aux Corbières en 1971, les sœurs frappaient à toutes les portes et il y avait un curé dans la commune de Puy-Château, l'abbé Ulfa, il avait fait entrer les sœurs en contact avec Roger Lansard, qui était responsable des abattoirs d'Exclémin. Ça leur permettait d'avoir une série de viande, comme ça. Alors ils ont gardé cette filière avec l'agroalimentaire et aujourd'hui supermarché Carrefour les fournit gratuitement en leur livrant des produits qui sont proches de leur date de préemption, donc qui doivent être consommés tout de suite. Elle loue également des terres agricoles, mais ça rapporte pas trop d'argent, c'est plutôt pour éviter que ça retourne à la friche. pleurnicheurs, les agriculteurs de pleurnicheurs au luxe. Donc, autant de moyens qui rendent possible la vie de la communauté culturelle. Alors évidemment, sans être une obsession, les problèmes matériels posent cependant des difficultés, surtout quand des travaux d'entretien sont réalisés. La toiture, l'isolation, l'électricité, actuellement la chapelle de l'unité critique commence à être fatiguée. Et tout ça, ça s'ajoute au contingent de la vie ordinaire, mais pour les sœurs, elles restent sereines, la priorité reste la prière, et elles ont un grand détachement par rapport au monde du quotidien. Et donc, ces sœurs sont curieuses, elles inventent un monde à part, très très loin des préoccupations extérieures habituelles, même si elles n'aiment pas, quand on leur dit, quand on leur suggère qu'elles vivent repliées sur elles-mêmes, elles disent qu'elles sont à l'écoute des autres, et qu'elles prient pour les autres, et qu'elles ont une place extrêmement importante. Alors, je voudrais vous montrer, pour terminer, un certain nombre de photos raccourcies. Là, vous avez une photographie de la chapelle dans son état actuel. Alors, vous voyez, le travail qui a été réalisé par les sœurs, elles ont rénové ça. Les trois vitraux du cœur, qui étaient magnifiques, ont été enlevés. On ne veut pas se distraire, il y a les icônes, etc. Et les vitraux latéraux ont été remplacés par des ouvertures un peu modernistes, avec une plaque de verre et donc des ouvertures en béton armé. Donc une chapelle qui a son dôme flambant neuf et qui là est prise donc du côté est et en face on entreaperçoit la dent du chat. Là on revient en arrière, c'est la grande photographie classique, cette photographie extraordinaire de la construction du docteur Bonnard, de Dardieu de Grosse, la construction de l'entreprise de Grosse, le chalet hôtel pour l'héliothérapie avec les balcons, le bâtiment remarquablement équilibré, absolument pas dénaturé par son extension vers le nord, et là les plantations, à cette date de 1893, les plantations sont encore parfaites, et c'est ce bâtiment que l'on voit aujourd'hui, là c'est le bâtiment de 1922, une fois qu'il a été étendu par les soins d'entreprise d'Ossito, et aujourd'hui donc ce bâtiment avec à l'arrière-plan donc le renard. Et c'est une photographie du bureau de faveur donc qui indique, qui représente l'état actuel, noyé dans la végétation, la face ouest de ce bâtiment. Et je terminerai par cette photographie assez impressionnante. Vous avez la minuscule chapelle des Corbières, donc qu'on voit très bien depuis la route quand on monte, quand on entre à Prévoux, dominée par la masse imposante du Revard. Et ce site des Corbières, donc il a cette année 112 ans. Et il représente une espèce de raccourci fabuleux, parce que à l'origine, on s'occupait il était caractérisé par le soin des corps dans une ambiance aristocratique. Aujourd'hui, c'est le soin des âmes dans une ambiance extrêmement dépouillée, avec des contemplatives de BTM où j'ai cherché à vous montrer l'originalité. Entre les deux, ça a été un lieu avec une très grande dimension sociale, et également religieuse, mais surtout sociale, de l'orphelinat. C'est un lieu qui est très, très intéressant, qui fait partie intégrante du patrimoine historique aixois, relié par le tracé de la crémaillère, et il est bien certain qu'un tracé de la crémaillère qui serait réhabilité avec des indications qui permettrait depuis Mouxy de relier Mouxy aux Corbières, ça serait le plus bel effet, ça montrerait qu'on tient compte d'un patrimoine qui a eu une histoire et qui, quand on le visite aujourd'hui, même si pour le commun des mortels, quand on n'a pas l'autorisation d'entrer dans le cloître, on voit peu de choses, ça donne quand même une très très grande sérénité. Alors, je vous remercie de votre attention. Alors, avant de répondre à vos questions, si vous souhaitez poser quelques questions, je voudrais vous dire que donc un livre, j'ai écrit un livre sur ce site des Corbières qui va être publié la couverture tout à l'heure sur la première image. Je vous le recommande d'autant plus que vous trouverez toutes les images que je vous ai montrées, vous en trouverez beaucoup d'autres documents. Vous trouverez toute une série d'explications, en particulier beaucoup plus sur le père Portal, etc. Et je vous recommande d'autant plus que je ne toucherai pas un euro de droit d'auteur, la totalité de droit d'auteur ira à la société d'arrivée. Et ceci dit, si vous voulez des explications sur un point sur un autre, je suis à votre disposition. Oui.
Que sont devenus les vitraux?
Alors, d'autres questions. Les vitraux, il y a une partie qui a été placée dans la crypte, mais l'essentiel, ils ont été déposés, ils sont en réserve donc dans les caves du monastère, dans les réserves du château. Ils tombent. Non, c'est un domaine de 12 hectares. Donc il y a une partie des terrains donc, qui appartiennent aux sœurs, qui sont par exemple donc, des bois, qui sont en friche, d'autres qui sont loués à des agriculteurs, mais d'après sœur Odilia, la prieure du monastère, donc c'est plutôt une location symbolique. C'est une. C'est pour éviter que ça aille en friche. C'est pas un placement.
Malade, c'est pas forcément un médecin qui vient. Hein.
elles conduisent. Alors, le problème des prêtres, c'est très compliqué. Comme l'Église catholique, donc, c'est une Église qui n'accepte pas que les femmes puissent célébrer les offices. Donc, elles sont, bah, comme les sœurs de Saint-Joseph, elles sont dépendantes d'aumôniers. Et ces aumôniers, donc, il faut les trouver. Alors, quand il y avait un prêtre avec les chapeaux, de temps en temps, il allait dire la messe, là. Actuellement, donc, c'est souvent des expédients. Actuellement, donc, c'est des prêtres belges qui viennent, par roulement de 15 jours à 3 semaines, et qui donc, c'est pas très drôle pour eux, de temps en temps, on les voit passer sur le chemin, ils ont envie, ils sont en train de parler, donc ils viennent par roulement pour assurer, donc les cérémonies, c'est un gros problème pour eux, c'est un gros problème. Allez-y. Pour trouver des renseignements sur les sœurs, donc outre les archives qu'elles ont conservées, j'ai pu, on m'avait orienté vers les archives diocésaines. Les archives diocésaines sont complètement débordées. On m'a dit, il y a certainement quelque chose, mais venez nous aider à prier pendant 3 mois, et puis après vous trouverez peut-être quelque chose, donc je n'ai pas donné suite. Par contre, j'ai trouvé quelque chose aux sœurs de Saint-Joseph, celles qui viennent justement de déménager à Chambéry et qui viennent de vendre leur mobilier. J'avais été les voir, elles m'avaient dit on n'a rien, j'avais laissé mon numéro au téléphone, et puis une sœur m'a rappelé après en disant on a quelque chose, un petit dossier. Donc c'est à partir de là que j'ai trouvé une chronique intéressante avec les récits. Hein. Évidemment, il y a les archives municipales avec Joël Lagrange qui est la valeur sûre pour obtenir l'enseignement. Une autre valeur sûre très très intéressante, c'est l'entreprise de Léon Gross. L'entreprise de Léon Gross qui est un service d'archives, 7 km de rayonnage d'archives. Et donc, j'ai retrouvé tous les plans de construction. Évidemment, je ne vous ai pas montré ce soir, mais dans le bouquin, vous verrez les plans, les éléments intéressants. Et c'est la grande différence entre l'entreprise de Léon Gross et l'entreprise Moschetto. Il faut dire que l'entreprise de Léon Gross fonctionne toujours. L'entreprise Moschetto, elle a mis la clé sous la porte, et en 1995, toutes les archives de l'entreprise Moschetto ont été jetées. Et quand j'ai voulu avoir les plans de la chapelle de l'Unité, de la chapelle du Christ Rédempteur, comme on l'appelait au début, j'ai rien trouvé. Parce qu'il n'y avait plus rien, on a dit on a tout jeté. Par contre, chez Léon Gross, tout est classé, il y a un archiviste, deux heures après, c'est prêt, et vous donne ça dans des dossiers, etc. C'est extraordinaire pour nous. Quoi. C'est extraordinaire. Il y a également des gens qui ont donné des documents, en particulier le chauffeur de Madame Galis, c'est sa petite fille qui m'a permis d'entrer en contact avec le père de ce monsieur pour justement avoir sa photo et puis avoir quelques informations sur lui. La photographie que j'ai montrée, le père Portal, au milieu des orphelines avec Madame Galis, hein, peu de temps avant la mort du père Portal, elle avait été donnée par la mère d'une ancienne orpheline des Corbières.